Bonjour, je m'appelle Claire Less et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder sur les plateformes en cette fin avril ? Nos spécialistes Thomas Sautinel et Audrey Fournier vous ont préparé un menu, comme toujours, savoureux, à la carte. Une compagnie aérienne qui vous donnera envie de prendre le train, le parcours fou d'un espion broyé par la guerre du Vietnam et un sociopathe qui fait le tour de l'Italie en noir et blanc. On terminera par la traditionnelle carte blanche. Attention, chers auditeurs, Audrey divulgâchera sans état d'âme la fin de la série La Fièvre, qui apparemment lui a donné mal au crâne. Bonjour Audrey, bonjour Thomas.
Bonjour Claire.
Bonjour Claire.
Alors, on commence votre top 3 par la nouvelle création originale de Canal+, Terminal. Les deux premiers épisodes sont sortis ce lundi 22 avril. Audrey, cette série nous embarque dans les coulisses d'une compagnie aérienne déjantée et très, très low cost.
Oui, c'est vrai qu'on est moyennement rassuré à l'idée de monter dans un avion de Flywings. Flywings, c'est la compagnie low cost qui sert de cadre à la série Terminal. On y suit sur 12 épisodes le quotidien d'une bande de pieds nickelés de l'aviation. Il y a des stewards, des hôtesses de l'air, un commandant de bord qui est interprété par Ramzi Bedia, qui a obtenu sa licence dans une pochette surprise.
Et bonjour à tous. C'est Jack, votre commandant de bord.
Et tout le reste de l'équipage est à l'avenant.
Je sniffe de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Tous ces gens sont interprétés par des techniciens de la vanne, quoi. C'est-à-dire des comédiens qui ont l'habitude du stand-up, qui nous font rire depuis des années. Donc, enfin, on va retrouver Camille Chamoux, Tristan Lopin, Alexandra Roth.
Excusez-moi.
T'es tranquille de me couper la parole ? T'as pas remarqué que j'étais en train de développer une pensée ?
On retrouve quelques personnages qui sont pas issus de la scène humour, hein, comme Bérangère MacNeice, qui est assez surprenante dans le rôle d'une copilote qui, elle aussi, a quelques problèmes techniques. Bérangère MacNeice, vous vous souvenez, on l'a vu dans HPI.
Soulet, lui !
Alors, c'est une sitcom sur laquelle Canal mise beaucoup et qui est made in Jamel Debbouze. C'est en tout cas comme ça que la chaîne cryptée la présente, puisque la star du stand-up français l'a co-réalisée et produite. Est-ce que ça veut dire que Terminal joue sur les codes et le souvenir de H, cette série en blouse blanche de la fin des années 90, dont Jamel Debbouze était l'un des personnages principaux ?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une volonté, pas de retour aux sources, mais en tout cas de revivifier le mythe de H.
Il y a rien qui te choque ?
Si. La misère dans le monde, c'est dégueulasse. Je te jure, c'est trop choquant, quoi.
C'était une sitcom très premier degré, avec rire enregistré. Donc, il y avait Jamel qui était tout jeune à l'époque, il y avait Eric Judor, il y avait Ramzi également. C'est une série qui a fait partie des tout débuts de la création originale de Canal+, qui a ensuite été connue pour des séries assez qualitatives. Là, il y a une volonté de un peu ranimer cet esprit sitcom. Donc, Canal+ a mis des gros moyens. Ils ont construit des décors dans un studio avec des gradins qui permettaient de mettre environ 50-70 personnes pour faire l'enregistrement en public. Les gradins tournaient, donc le public pouvait passer d'un décor à un autre assez facilement. L'enregistrement au public, c'est ce qui permet aussi de tester les vannes. Bon, alors on voit que la chaîne essaye quand même de nous faire passer pour une grande nouveauté un dispositif qui est finalement assez ancien. L'enregistrement en public, ça existe depuis les années 50, depuis les débuts de la sitcom. Donc il n'y a vraiment rien de nouveau.
Ok, donc si je te suis bien, c'est une continuation de l'esprit de H, mais adaptée à une nouvelle époque. Et ça veut dire pas de blagues sexistes.
Oui, c'est sûr que l'écriture a beaucoup changé. D'ailleurs, la salle d'écriture, elle est assez impressionnante, hein, puisqu'on retrouve des gens comme Xavier Lacaille, hein, de Parlement, l'humoriste Paul Mirabel aussi, qui est très, très à la mode en ce moment, Clémence Dargent, hein, qui était une des scénaristes d'OVNI. On voit bien qu'il y a un effort d'écriture assez poussé. Donc, on rit beaucoup, et on rit d'autant mieux que les personnages féminins sont plus les punching balls qui pouvaient être dans H. Hein. C'est une écriture qui s'est totalement débarrassée de cet humour très sexiste, même pour l'époque d'ailleurs, et assez balourd. Ça fonctionne bien parce que c'est interprété par des gens, ça fait 30 ans qu'ils font rire tout le monde, donc évidemment, on rigole beaucoup. Moi, je m'interroge surtout sur l'intérêt de Terminal en tant que série, c'est-à-dire, vous allez remarquer quelque chose en le regardant, c'est que chaque épisode est totalement interchangeable, qu'il n'y a absolument rien qui se construit sur la durée, que les personnages sont extrêmement superficiels, et finalement, c'est une série qui ne dit pas grand-chose de l'époque dans laquelle elle se déroule. Donc, la conclusion à laquelle je parviens, moi, au bout de ces 12 épisodes, c'est que finalement, on n'a toujours pas trouvé en France la recette de la sitcom.
Alors, est-ce que la recette de Terminal vous conviendra à vous ? Pour le savoir, direction Canal+, de nouveaux épisodes seront diffusés chaque lundi. On change radicalement de registre avec toi, Thomas. Tu as été captivé par la mini-série d'espionnage The Sympathizer, lancée par HBO à la mi-avril. Et cette fois, l'intrigue se déroule à la fin de la guerre du Vietnam.
Oui, c'est l'adaptation d'un roman de Viet Thanh Nguyen, qui est américain, mais qui est né au Vietnam, qui a fui le Vietnam. Et le roman est paru en 2015, 40 ans après que Saïgon ait été prise par les forces venues du Nord-Vietnam. Ce roman met en scène un métis qui est né d'un père missionnaire français et d'une mère vietnamienne.
Biracial, bilingual.
Et qui se retrouve pris entre les deux forces qui travaillent son pays, c'est-à-dire le Parti communiste d'une part et les puissances coloniales. En l'occurrence, ce sont les États-Unis. Il est recruté par les services secrets communistes pour infiltrer les services secrets du Sud-Vietnam. Et en 1975, au moment de la libération de Saïgon, de la fuite des Américains, il pense pouvoir sortir de la clandestinité, mais il est obligé d'accompagner les dirigeants sud-vietnamiens dans leur exil aux États-Unis parce qu'il a été chargé par ses chefs d'infiltrer la diaspora.
Jesus. So where are we going?
To next harbor on your CIA bridge. America.
Quand il arrive aux États-Unis, à quoi son quotidien ressemble? Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, il est à la fois un immigré sans argent, sans contact, et en même temps, comme c'est un garçon plein de ressources, il a fait des études aux États-Unis, donc il connaît des professeurs d'université, il accompagne un chef militaire que les Américains continuent de courtiser. Donc, il est à la fois complètement à l'extérieur et dans les mécanismes de pouvoir.
Alors, des fictions sur la guerre du Vietnam, il en existe déjà beaucoup. Qu'est-ce que celle-là apporte de plus?
C'est un complet renversement de perspective sur les ravages que cette guerre a pu faire. Là, c'est le regard vietnamien sur cette guerre. C'est le contre-champ d'une série de fictions américaines qui sont très, très diverses. Ça va des bérets verts de John Wayne qui, pendant la guerre du Vietnam, défendait la cause de l'intervention américaine, au documentaire de Ken Burns sur la guerre du Vietnam, qui est passé sur Arte, qui était une dissection très minutieuse et vue des deux côtés, mais par un Américain.
On est donc entre le thriller, la comédie satirique et le drame politique, et le tout porté par des acteurs que tu qualifies de remarquables, notamment Robert Downey Jr., qu'on connaît pour son interprétation d'Iron Man, et qui ici joue plusieurs rôles en même temps. Pourquoi ce choix?
Alors, Robert Downey Jr., on avait fini par l'oublier à force, effectivement, d'Iron Man et de Sherlock Holmes. C'est un des plus grands acteurs de sa génération. On vient de le revoir dans Oppenheimer, il était génial. Là, effectivement, il incarne un agent de la CIA, un professeur d'université, un politicien réganien et un réalisateur de cinéma. Parce que le livre et la série, c'est aussi une analyse, une dissection des formes du postcolonialisme. Donc, il y a les services secrets, il y a l'université, le savoir, la politique, l'entertainment, le show business. Et Robert Downey Jr., du coup, devient, changeant de personnage, de maquillage, c'est un peu l'hydre postcolonial, un acteur, plusieurs personnages.
Une série qui impressionne, donc, mais est-ce qu'elle réussit aussi à nous émouvoir?
Oui, parce que même s'il y a un ton ironique souvent marqué, ça reste une tragédie et la dimension tragique est toujours présente. Tout ce que les protagonistes, particulièrement vietnamiens, ont perdu est sans commune mesure avec ce qu'ils peuvent gagner en arrivant aux États-Unis. On est ému aussi parce que l'acteur qui incarne le personnage principal, qui n'a pas de nom, on l'appelle de temps en temps le capitaine, c'est un acteur australien d'origine vietnamienne qui s'appelle Oh Ha-Chuan De, qui est à la fois fragile, lucide, plein de ressources, mais toujours au bord de la catastrophe. Et il réussit, face à Robert Downey, face à ce récit extrêmement labyrinthique, à nous donner un fil conducteur émotionnel qui permet d'adhérer à la série.
Pour regarder The Sympathizer, ça se passe sur Prime Video via le Pass Warner. Et pas possible de la binge-watcher, un nouvel épisode sort chaque lundi. On enchaîne sur la troisième et dernière série. Vous l'avez visionnée tous les deux. Il s'agit de Ripley, diffusée sur Netflix. Alors là, c'est une série qui ne respecte pas du tout les standards très codifiés de la production à la Netflix auxquels on commence à s'habituer. Audrey, déjà, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle ?
Là aussi, il s'agit d'une adaptation de roman, celui de Patricia Highsmith qui a été publié en 1955. Il y a déjà eu plusieurs adaptations à l'écran. On connaît celle de René Clément en France avec Alain Delon. Et aussi, quelques décennies plus tard, le film d'Anthony Minghella avec Matt Damon, entre autres, qui est un film que je trouve très réussi. Cette fois, pour incarner Tom Ripley, c'est Andrew Scott qui s'y colle. Andrew Scott, c'est un acteur irlandais qui a plutôt le vent en poupe en ce moment. On s'en souvient dans le rôle du Hot Priest dans Fleabag, mais récemment, il a aussi interpréter le personnage principal d'un très beau film qui s'appelle « Sans jamais nous connaître ». Alors, Tom Ripley, bah, c'est un arnaqueur, hein. C'est un petit escroc qui, au début de la série, évolue à New York et vit de petites combines assez minables. False IDs, bank letters. What's going on, Tom? Et à un moment, le père d'un ami, qui est finalement un ami assez lointain, le contacte. Il est assez riche. Son fils, qui s'appelle Richard, est parti en Italie faire de la peinture. Et son père voudrait qu'il rentre aux États-Unis pour, en quelque sorte, reprendre sa vie en main. Donc, il convainc Tom Ripley, moine ayant finance, bien évidemment, de partir en Italie et de le ramener en bateau aux États-Unis. Une fois arrivé en Italie, les choses vont dégénérer.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Et sans trop spoiler la série, on va juste dire que Tom va finir par s'accaparer l'existence de Richard.
Et Thomas, je le disais à l'instant, ce n'est pas le style de série qu'on est habitué à voir sur Netflix. Esthétiquement, moi je trouve qu'elle a des airs de film d'auteur.
Oui, c'est une série délibérément cinématographique. Le créateur s'appelle Steven Zaillian, c'est un scénariste coté à Hollywood. Il a travaillé pour Scorsese, entre autres sur The Irishman, une production Netflix. Il s'est emparé de Ripley, et déjà il y a une contre-référence cinématographique, c'est-à-dire que le film originel, celui de René Clément, s'appelait Plein Soleil, était un film extrêmement coloré, extrêmement lumineux, et là, on est pendant tous les épisodes dans un noir et blanc assez sombre, quelque chose qui est très très différent de toutes les incarnations précédentes de Ripley, et sur un rythme aussi qui est assez lent, qui permet de se promener longuement dans les décors de la Côte Amalfitaine, à Venise, à Naples, à Rome, et de regarder, de contempler les peintures du Caravage, les sculptures dans les églises, etc.
T'es d'accord, Audrey ?
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec Thomas. Il y a une façon de déjouer les codes de la narration façon Netflix en dynamitant un petit peu la façon dont les péripéties sont égrenées tout au long des 8 épisodes. C'est-à-dire que c'est une série qui assume la lenteur, qui assume des plans dans lesquels il ne se passe pas grand-chose, qui assume des séquences qui s'étirent à l'infini. Autre chose, et là aussi je rejoins totalement Thomas, c'est la direction artistique. Je trouve qu'il y a une grande cohérence entre l'écriture, entre la réalisation et dans la direction artistique, dans ce choix d'un noir et blanc qui est extrêmement contrasté et qui montre une Italie très froide, complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, l'Italie, c'est la chaleur, c'est un peu la Dolce Vita, c'est la plage. Là, on a toujours l'impression que la mer est froide. Il y a une forme de vide aussi. On évolue dans les ruelles de l'Italie. Les ruelles sont souvent vides. Il n'y a qu'un chat pour témoin des actions des personnages. Et aussi, il y a cette façon de mettre en scène le rapport de Tom Ripley à l'art italien. Il y a une espèce de fétichisation de cet art de vivre et presque un syndrome de Stendhal dans la façon dont Tom Ripley contemple l'Italie autour de lui. Et cette façon de s'approprier la vie d'un homme qu'il n'est pas, et ben c'est presque sa façon à lui de faire de l'art.
Si vous voulez vous faire votre propre avis sur Ripley, rendez-vous sur Netflix. Les 8 épisodes sont déjà en ligne. L'heure des séries touche à sa fin, mais on ne va pas se quitter sans la traditionnelle carte blanche. Audrey, tu reviens sur une série Canal+, dont tu avais déjà parlé avec Jean-Guillaume dans l'épisode de mars. Il s'agit de La Fièvre. Et est-ce que j'ose le dire comme ça, la fin t'a laissé sur ta faim ?
D'une certaine façon, tout à fait littéralement, puisque vous savez, les journalistes ont généralement accès aux épisodes en avance. Mais là, Canal+ avait choisi de nous priver tout à fait volontairement de la dernière scène, par peur des spoilers, ça peut se comprendre. Donc cette dernière scène, on l'a découverte en même temps que les téléspectateurs lors de la diffusion du dernier épisode. Dans cette scène, on voit le personnage de Samuel Berger, interprété par Nina Meurice, être convoqué à l'Élysée pour rencontrer le président de la République pour parler de ce Winter is Coming, de cette guerre civile qu'elle entrevoit. Et ce président, c'est Philippe Rigvart, le personnage de Baron Noir, la précédente série d'Éric Benzekri. Alors, ce retour de Rigvart, c'est pas une immense surprise, puisqu'il y a une logique à ce que l'histoire de la fièvre, qui est une histoire de communication et de formation de l'opinion publique, il y a une logique à ce qu'elle remonte à un moment jusqu'au sommet de l'État et que, d'une certaine façon, la politique politicienne reprenne la main. Donc, cette réapparition de Rigvart, interprétée par Kad Merad, elle est, je trouve, tout à fait cohérente avec le projet de la série d'Éric Benzekri. Et d'ailleurs, Canal+ a confirmé, dans la foulée, qu'il y avait un projet de crossover, donc de croisement, entre les personnages de Baron Noir et de La Fièvre dans une nouvelle série qui sera le prolongement des deux titres qui est actuellement en développement. Sur le papier, je trouve que c'est un projet très excitant. La série a beaucoup fait parler. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une note de la Fondation Jean Jaurès qui vient d'être mise en ligne vendredi dernier. C'est une trentaine de contributions qui ont été réunies dans un temps très très court et rédigées par des universitaires, des politologues, des spécialistes de l'opinion aussi, et qui vont chacun tenter de tirer des conclusions et des tendances à partir de cette série. Elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais en tout cas, elle donne beaucoup à voir, beaucoup à penser, c'est pas rien, et peut-être que d'ici 2-3 ans, on aura enfin l'équivalent d'un West Wing, ou en tout cas des premières saisons de House of Cards à la télévision française.
On l'espère, merci Audrey, merci Thomas.
Merci Claire.
Merci Claire.
Cet épisode a été réalisé par Thomas Zeng. L'heure des séries, c'est fini, mais on revient dans un mois avec de nouvelles fictions à découvrir. En attendant, je vous invite à lire les critiques, les analyses et les interviews d'Audrey Fournier et Thomas Sautinel sur lemonde.fr, rubrique séries. L'heure du monde, c'est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Et si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant sur abopodcast.lemonde.fr. À très vite pour un nouvel épisode.